professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Déstressez-vous en écoutant votre émission avec la gamme Déstress du laboratoire Synergia, expert du stress et de ses conséquences. Déstress ? Déstress.
Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Comment on fait pour être Jean-Paul Curtet ? C'est pas trop difficile d'avoir toutes ces pensées, toutes ces choses qu'on retient.
Parfois, si, un peu trop.
Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir sur Nutri Radio chaque lundi pour cette émission culte, cette émission qui sert, qui réveille, qui éveille, qui réveille, qui instruit, qui, voilà, j'espère, hein, contribue à une meilleure prise de conscience de ce qu'il faut faire pour notre prévention santé, pour bien vieillir aussi, même si parfois on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais par exemple, sur les allergies, on peut faire beaucoup de choses et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la prévention et les traitements des allergies alimentaires. Vous savez que c'est les derniers sujets des émissions, donc là on va toujours un tout petit peu plus loin. Le temps pour moi quand même de faire le travail en remerciant évidemment notre partenaire sans qui on ne pourrait pas faire cette émission, voyez-vous. Laboratoire Synergia, spécialiste dans les compléments alimentaires innovants à base de minéraux, vitamines et acides aminés ainsi que des plantes. Voilà, je crois que j'ai été complet. Nous allons donc parler avec vous aujourd'hui de la prévention. Enfin, ça y est, les solutions se dessinent, mon cher Jean-Paul.
Oui, alors, il faut distinguer la vraie allergie alimentaire ou la moindre trace, on l'a compris, d'un aliment. Souvent, c'est l'œuf, la crevette, l'arachide peuvent donner des chocs anaphylactiques, donc ça peut être mortel, hein, qui obligeait à l'éviction des aliments incriminés. Donc, on est obligé de les éliminer de manière totale. Ça pose des problèmes particuliers, pratiques. Hein. Par exemple, la personne va au restaurant, bon, s'il y avait une trace de crevettes dans la sauce, l'assiette était mal lavée, elle peut faire une réaction. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait toujours avoir avec soi une seringue d'adrénaline, mais bon, ça, les gens qui l'ont vécu le savent.
Ou alors, on peut aller au restaurant avec ses couverts et son assiette.
Il reste quand même le problème des ingrédients. Ah oui. Les gens ne sont pas toujours conscients de toutes les traces de... Parce que là, c'est vraiment la moindre trace, contrairement à l'intolérance alimentaire, où là, l'éviction peut aggraver les choses. C'est un peu l'inverse. Oui. Donc, ça nécessite évidemment un diagnostic solide. Et là, un encadrement par un service spécialisé. Donc, par ailleurs, même s'il y a allergie comme ça, gravissime, potentiellement, ce serait une grave erreur de ne pas tenir compte des cofacteurs, c'est-à-dire l'inflammation, la dysbiose, la perméabilité digestive anormale. Qui vous rappelez que c'est le mécanisme qui favorise ces réactions, c'est-à-dire que le tube digestif qui fait face à l'extérieur, en fait, c'est comme notre peau, mais à l'intérieur du tube digestif, hein, on est face à l'extérieur, doit être capable de tolérer ou de moduler, en tout cas d'interdire le passage d'antigènes, c'est-à-dire de protéines insuffisamment digérées. Bon. Alors, on peut aussi éventuellement tenter un truc qui marche parfois souvent bien. Par exemple, pour l'aspirine, ça marche bien. C'est un protocole de désensibilisation. Bon, de nouveau, ça, c'est vraiment une question de spécialiste. On vous injecte des petites doses progressives dans un cadre contrôlé, évidemment, pour désensibiliser. Mais bon, l'idéal, c'est de faire de la prévention. Hein. Déjà, quand une mère est allergique, elle a un terrain dit atopique, c'est-à-dire soit elle fait de l'asthme, l'eczéma, ou de l'urticaire, ou comme moi, de l'intolérance à la poussière de maison ou de poil de chat. Il faut éviter déjà les aliments les plus souvent incriminés dans la réaction, c'est-à-dire les produits laitiers qui sont le plus fréquents, les céréales à gluten, l'œuf, le poisson, l'oléagineux, l'arachide, la moutarde, les additifs, les colorants, hein, c'est-à-dire en fait les produits agroalimentaires industriels, parce que on sait que ce que mange la mère passe en partie dans le liquide amniotique. Et vous savez que le bébé, il déglutit le liquide amniotique, donc en fait, il goûte ce que mange sa mère. D'où l'intérêt de cette mesure. Donc les mères veillent à suivre une alimentation aussi anti-inflammatoire, favorable à la flore. Il y a aussi l'histoire de de l'accouchement. Hein, c'est-à-dire que si la mère subit une césarienne, et il y a un abus de césarienne en ce moment important en France, mais encore pire dans certains autres pays comme le Brésil ou la Chine, c'est la mode. De faire des césariennes au lieu d'accoucher par les voies naturelles. Le problème, c'est que dans ce cas-là, la flore vaginale de la mère ne va pas ensemencer le tube digestif de l'enfant. Et donc, il va naître avec une flore plus pauvre et ça va aussi favoriser tous ces problèmes. On avait vu, vous rappelez, que les enfants nés dans les fermes, en contact avec plein d'animaux et encore beaucoup plus de variétés microbiennes, font beaucoup moins et d'intolérance et d'allergies classiques, hein, c'est-à-dire asthme, urticaire, eczéma, conjonctivite et tout le reste. D'ailleurs, ils ont aussi une meilleure immunité. Tous les conseils qu'on a donnés, hein, l'alimentation anti-inflammatoire, riche en fibres, en fruits, en légumes, en légumineuses, en céréales complètes, sans gluten, courge, aromates, dont le curcuma, l'huile d'olive vierge, le thé, le chocolat noir, etc., etc., riche en oméga 3, avec l'huile à 2/3 de lin, 1/3 d'olive, pauvre en sucre rapide et en graisse saturée, tout ça reste utile, même en cas donc d'allergie et du fait que l'éviction, elle est quand même indispensable, évidemment.
Jean-Paul, on va marquer une toute petite pause, si vous me permettez. Oui, vas-y. On marque une pause tout de suite, comme ça on revient dans un instant et vous allez pouvoir continuer de nous parler de cet aspect prévention. On reviendra après sur la désensibilisation, en sachant que, évidemment, comme le dit Pollux...
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Alors là, je suis hyper prudent parce que vous n'avez évidemment rien donné qui puisse prêter à confusion, mais bon, j'avais envie d'introduire Pollux dans cette émission pour qu'il nous rende une petite visite. On marque une pause et on se retrouve dans un instant, juste après ceci.
Depuis plus de 20 ans, le laboratoire Synergia, pionnier en compléments nutritionnels, développe son expertise scientifique pour votre santé. Avec l'appui de médecins, nous créons des produits basés sur la synergie de micronutriments par une action optimale. Reconnus par les professionnels de santé, nous sommes les experts du bien-être et numéro 1 sur le marché des compléments du stress avec la gamme Destress. Choisissez Synergia avec Destress pour un quotidien plus sain et équilibré.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Qu'est-ce qu'on peut faire en prévention, en désensibilisation, en ce qui concerne les allergies? On en parle aujourd'hui avec le docteur Jean-Paul Curtet. On a parlé, vous avez évoqué cette mode pas très bénéfique, hein, de la césarienne en France, mais en Chine aussi et au Brésil notamment, qui n'est pas forcément très bénéfique pour l'immunité, pour lutter contre les allergies, pour un tas d'autres choses. Ce qui est bien aussi, visiblement, dans le volet prévention, c'est autant que possible, si on reste dans la maman, ce qu'on peut faire, c'est l'allaitement au moins 6 mois.
Alors oui, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, éviter la prise d'antibiotiques, ce n'est pas absolument indispensable. Les antibiotiques, comme on le sait, ça tue la flore. Donc, si jamais on est obligé, parce que si on a une angine bactérienne, c'est dangereux, il faut prendre des antibiotiques, bien sûr, une cystite, tout ça, encore plus pendant la grossesse, il faut une cure intense de probiotiques. Bon, parce que là, c'est normal. Mais parfois, c'est oublié. Bon. Alors, lorsqu'il y a césarienne, il y a un protocole de compensation qui est de mettre des cotons-tiges dans le vagin de la mère pour badigeonner le tour de la bouche de l'enfant. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment très efficace, mais si la césarienne est obligatoire, ça peut être une façon de compenser un petit peu. Alors, comme Fabrice le disait, c'est l'allaitement est protecteur. D'abord, il faut savoir que le lait contient des prébiotiques, des bifidogènes. Bon, par ailleurs, ils ont un rôle protecteur immunitaire très puissant, hein, puisque dans le lait maternel, il y a des cellules, il y a des anticorps, Et tout ça passe dans le bébé et lui crée une sorte de vaccination globale. Enfin, c'est pas vraiment une vaccination, hein. C'est plutôt un renforcement immunitaire transitoire pendant les premiers mois les plus sensibles. D'où l'intérêt. Bon, l'allaitement optimum serait de plusieurs années, hein, 2, 3, 4 ans même. Alors, dans nos sociétés où les mamans travaillent, c'est difficile. Mais 6 mois, ça c'est vraiment important, d'autant plus qu'on peut reprendre le travail tout en tirant son lait, voilà, et on le réchauffe pour le donner au bébé pendant que la maman est au travail. Bon, après il y a l'histoire des nourrices, il faut trouver des solutions, si vous voulez, pour concilier la vie, entre guillemets, indépendante des mamans, avec la santé des enfants.
En tout cas, on note que c'est dès ces étapes-là que toutes ces mesures vont jouer un rôle sur notre immunité et sur le développement des intolérances et des allergies, notamment. C'est là, c'est à ce moment-là.
Alors, ça commence. Bon, après, malheureusement, moi, je commence par le début parce que c'est la grossesse et le nourrisson, mais ça continue, si vous voulez. C'est-à-dire qu'après, la mauvaise alimentation, la pollution, le stress, tout ce qui affaiblit la flore, tout ce qui enflamme le digestif, et surtout la consommation, évidemment, de produits ultra transformés, où il y a des tas de choses inhabituelles, en fait, hein, artificielles. C'est de la bouffe synthétique, en fait. C'est une source majeure de réaction. Alors, donc, évidemment, oui, en cas de gastro-entérite, là, il faut prendre des probiotiques. Alors, le tabac, comme toutes les pollutions, donc on l'a dit, altère la flore aussi, hein, ça, on n'était pas conscient avant. On peut assainir au maximum son intérieur. Par exemple, il y a des tas de bêtises. Hein, bon, on sait que quand un enfant est allergique, il faut éviter, par exemple, les tapis, tout ce qui est tissu concentre les acariens, des poussières, etc. Il vaut mieux un carrelage des sols. Bon, le pire, c'est les parquets artificiels. Vous savez, les sortes de... Comment ça s'appelle? En PVC. C'est du faux bois, là, qui est beaucoup moins cher que le bois, donc on en retrouve ça partout. Eh bien, les enfants qui ont des planchers comme ça, dans leur chambre, ils font 50 fois plus d'asthme que les enfants qui n'ont pas. Donc tout ça, c'est des choses que je pense, malheureusement, on n'a pas communiqué aux parents, qui sont en général de très bonne volonté, mais bon, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Et puis donc, exposer l'enfant à des milieux riches, bon, s'ils sont urbains, bah, on peut aussi faire des visites à la campagne, visiter des fermes, voilà, voir des animaux. Chaque fois qu'on enrichit l'environnement, il y a des microbes différents et ça rend l'enfant beaucoup plus résistant. Hein, ça va induire ces phénomènes de tolérance dont on a beaucoup parlé.
Donc, le faux parquet, c'est mauvais?
Ah, le faux parquet, c'est vraiment très mauvais. Ah, le PVC se décompose à la lumière. Si vous voulez, ça relargue des substances qui sont offensives.
D'accord, donc on peut prendre du faux parquet, mais si on habite dans un sous-sol, en vrai, qu'il n'y a pas de lumière. Comment savoir si c'est une intolérance alimentaire? Comment on peut la reconnaître, la prévenir, la traiter?
Donc, le premier argument, ben, c'est le timing. Ben, c'est-à-dire que c'est dans les heures qui suivent l'ingestion de certains aliments. C'est pour ça que les allergologues font tenir des carnets où le patient note ce qu'il a mangé et note ses réactions. Voilà. Donc, à l'étude de ce carnet, l'allergologue a des soupçons et il fait des tests, on va en parler, des tests hein, pour identifier les agresseurs. Alors, ça peut être les produits laitiers, souvent, trophallergènes. Trophallergènes, ça veut dire allergènes alimentaires. Bon, les céréales à gluten, alors il y a l'alcool. Bon, chez les enfants, normalement, il n'y a pas d'alcool, mais il faut savoir qu'un fruit fermenté contient de l'alcool. Et puis, en fait, on fait un petit peu d'alcool dans notre tube digestif à partir du sucre, hein, parce que les bactéries, l'alcool, c'est une fermentation, et cette fermentation, on en fait forcément, même quelqu'un qui ne boit pas du tout d'alcool a une petite alcoolémie. D'ailleurs, dans certains pays très stricts comme la Suède, juste en mangeant beaucoup de sucre, on peut se faire gauler par la police avec un alcotest, parce que là, leur niveau de tolérance est plus bas que chez nous.
Après, ouais, on ne veut pas justifier ça quand même, parce que là, ils doivent avoir du boulot, les pauvres.
Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Après, je pense que s'il y a une contestation, ils font un dosage sanguin. Bon, après, là... Oui. Bon, le problème majeur, c'est quand même les produits industriels. Il faut le dire, malheureusement, c'est ça. Bon, pour des raisons pratiques, les gens n'ont pas le temps, moins le temps de cuisiner. C'est moins dans la culture. Hein. La libération de la femme, c'est bien sûr, tout le monde est pour, mais en même temps, voilà. Et puis, les tâches ménagères pourraient être plus partagées. Pour faire les courses. C'est intéressant, en fait, d'inviter les enfants à aller au marché, faire les courses avec eux, mettre au point les menus de la semaine. Il faut les appliquer. C'est aussi une façon pour eux d'apprécier. Et puis, quand ils font même les petits chefs, hein, je l'ai proposé ça dans la charte « Soyez bien dans ton assiette » pour les cantines, qu'il y ait chaque année les enfants participent à la fabrication des recettes ou vont même visiter la ferme où est produit sont produits les produits. Ils cuisinent et voilà, c'est festif et c'est sympa. Et du coup, ils ont aussi une façon de participer activement à leur propre santé.
Oui, puis en plus, on les rend un petit peu plus indépendants, ça permet aussi de comprendre. Ce serait bien aussi d'avoir ce petit volet budget. Vous voyez, on leur donne un petit budget, ils font les courses avec nous, ils choisissent leurs produits. Ça peut être aussi intéressant. Comme ça, on fait un 2-3 ans en un. On marque une dernière pause, mon cher Jean-Paul, si vous permettez, et on continue cette émission. C'est sur Nutri Radio, restez avec nous.
Nutri Therapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
On parle des allergies, des intolérances alimentaires aujourd'hui avec un côté plus concret sur la prévention, sur comment faire pour se désensibiliser. Alors évidemment, premier réflexe, aller chez le médecin. Car les informations que l'on vous donne ici, que Jean-Paul vous donne ici, ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Mais voilà, prenez-les en tant qu'information. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place. S'il n'y a pas de choses graves et qui ne nécessitent pas, la visite chez un médecin, vous pouvez mettre en place des choses très rapidement. Après, au-delà... on décline, la maison décline toute responsabilité, sachez-le. Bon, sur la reconnaissance d'une intolérance alimentaire, vous avez parlé de ce premier argument qui est l'apparition dans les heures et les jours d'après de certains aliments.
Le timing. Il y a certains signes, si vous voulez, qui sont vraiment très spécifiques. L'urticaire, ce qu'on appelle, c'est l'éruption cutanée mobile, contour net, c'est des marques rouges sur la peau qui ressemblent à des piqûres d'ortie, en fait, accompagnées d'une sensation de démangeaison. Bon, il y a des formes plus profondes, ça s'appelle l'angioédème. Bon, ça, si vous voulez, c'est important pour faire le bon diagnostic, évidemment. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez, ce qui serait une erreur, c'est d'interdire. Il y a beaucoup de praticiens qui pensent encore que, d'abord, on va pouvoir identifier en faisant des tests sanguins, ce qui est faux, hein, parce que il suffit d'être en contact avec un allergène, avec un aliment en fait, pour développer des anticorps. Ça ne veut pas dire qu'on est réactif. Hein, donc ces dosages sont faux, ils sont déconseillés par la Société française d'allergologie. Hein, par contre, il y a ces fameux tests cutanés qu'on va voir, qui peuvent faire le diagnostic. Mais de toute façon, ça serait une erreur de dire bon. Vous avez une réaction à l'arachide, si c'est pas une allergie dangereuse, anaphylactie, risque mortel, il vaut mieux restaurer la barrière digestive pour éviter que passent des éléments insuffisamment digérés. Bon, ça, on peut le faire sur une base très objective, hein, c'est-à-dire on peut doser dans les urines un truc qui s'appelle la peptidurie, c'est-à-dire justement repérer ces petits morceaux de protéines non digérées qui vont jusque dans les urines. On sait même identifier d'où ils viennent. Ces peptides sont souvent des peptides dits opioïdes et on peut savoir si ça vient de produits laitiers ou du gluten, par exemple. Il y a certaines pathologies où c'est plus fréquent qu'ailleurs, par exemple l'autisme. Chez les autistes, on trouve plus souvent des peptides opioïdes à base de produits laitiers et de gluten. La néoptérine, qui est un marqueur d'hyperactivité des globules blancs, c'est une inflammation. Les acides organiques urinaires permettent d'objectiver une dysbiose bactérienne. Bon, l'avenir, ça va être l'analyse génétique de ce qu'on a dans le tube digestif, parce que cultiver les sels, ce qu'on appelle la coproculture, marche pas bien, vu que la plupart des bactéries du côlon sont anaérobies. Elles meurent à l'oxygène. C'est des bactéries primitives, si vous voulez, qui ont parfois précédées, qui ont été très anciennes dans l'évolution, qui vivaient dans un milieu sans oxygène. Vous savez que l'oxygène, il provient de micro-algues qui ont généré l'oxygène qu'on respire. Avant, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. Donc avant, la vie était avec des bactéries anaérobies. Elles existent toujours. Elles sont dans le sol profond, mais elles sont aussi dans notre tube digestif. Et donc, quand on fait un prélèvement de sel, forcément, il faudrait complètement évacuer, il faudrait le mettre sous vide et évacuer l'oxygène pour que ça soit valable. Sinon, les bactéries anaérobies sont tuées. Voilà. Et puis, un dosage le plus intéressant s'appelle la zonuline. Grâce au professeur Alessio, un chercheur italien, on l'a identifié comme l'agent qui dilate les jonctions entre les entérocytes et qui permet ces passages anormaux de protéines indigérées, mais aussi de polluants, de plein de trucs, les fameux lipopolysaccharides, des bactéries tuées. À partir du moment où il y a une inflammation et une dilatation anormale du tube digestif, tout peut passer plus facilement. Donc, cette zonuline, c'est vraiment une avancée majeure. C'était découverte par Alessio Fasano, donc en 2000, c'est pas si loin que ça, à l'école de médecine de l'Université du Maryland. Elle entraîne donc une ouverture entre les cellules du tube digestif, ce qui permet le fameux leaky gut, tous ces passages indésirables. Voilà. Et c'est ce même Alessio qui a démontré que la gliadine, une des protéines du gluten, augmente la zonuline, même chez les non-céliaques. Ce qui est maintenant, il y a eu une longue controverse chez les médecins et les chercheurs qui, pendant très longtemps, ont dit oui, non, mais si vous n'êtes pas céliaque, c'est pas la peine d'éviter le gluten. Malheureusement, si. Et donc, culturellement, quand on a privilégié le blé dans nos sociétés, c'était pas le bon choix. Je pense que les Asiatiques ont été plus malins avec le riz qui est sans gluten et le soja.
Est-ce qu'il y a d'autres biomarqueurs à part la zonuline ? Pour avoir un diagnostic assez précis ?
Oui, il y a un certain nombre de marqueurs qu'on peut... Déjà l'inflammation, générale, tous les marqueurs inflammatoires, mais bon, on utilise surtout la CRP ultra-sensible. Comme je vous dis, l'avenir, ça va être l'analyse métagénomique, puisque les bactéries elles-mêmes... Mais par contre, leurs gènes, oui, ça, on peut assez facilement... Maintenant, on a des machines qui... en quelques minutes, décrypte tout l'ADN.
Et vous avez mentionné tout à l'heure que l'éviction alimentaire, elle pouvait aggraver les sensibilisations dans les cas d'intolérance. Qu'est-ce que vous répondez, vous, aux patients et aux professionnels de santé qui adoptent instinctivement cette stratégie pour, entre guillemets, apaiser les symptômes ?
D'éviction ?
Oui, tout à fait.
Oui. Le problème, c'est que, si vous voulez, l'éviction va resensibiliser, surtout si on n'a pas rétabli la barrière normale. Vous comprenez ? Et de toute façon, vous pouvez être intolérant à une chose et puis être demain intolérant à une autre, puisque c'est pas... Dans une allergie, c'est pas pareil, d'accord ? Une allergie, il y a un problème spécifique sur l'œuf, sur l'arachide, sur certaines noix, sur la crevette, bon, ça c'est particulier. Mais là, quand on parle d'intolérance, si on est intolérant à quelque chose, on peut être intolérant à n'importe quoi d'autre. C'est uniquement parce que des morceaux indigérés, mais si vous voulez, dans votre tube digestif, ils passent tous les aliments que vous mangez. Donc, les morceaux non digérés peuvent créer des réactions et vous pouvez donc réagir à tout. Donc, le problème, ce n'est pas d'empêcher, d'autant plus que, on l'avait vu, vous vous rappelez, plus vous consommez d'un aliment, plus vous augmentez la tolérance. C'est paradoxal, mais c'est l'inverse de l'allergie. La position à prendre est inverse de celle de l'allergie, où là, l'allergie, on ne peut pas faire autrement l'éviction. Dans l'intolérance, ça serait beaucoup plus risqué, parce que ça va faire flamber la réaction, elle sera beaucoup plus violente si jamais on a de nouveau. Et si on n'a pas rétabli la barrière, ça va forcément se répéter.
Rétablir la barrière, premier réflexe déjà.
Oui, mais en tout absolument.
Cas, merci beaucoup Jean-Paul. On va se retrouver la semaine prochaine. Le temps pour moi de vous dire que cette émission, elle sera en podcast, non pas dimanche à 18h, mais là tout de suite dans la foulée. On essaie de faire ça là, de vous mettre maintenant les émissions tout de suite dans la foulée de la diffusion sur le live pour battre le fer tant qu'il est chaud, si vous voulez la réécouter dans son intégralité sans interruption ou presque. Merci Jean-Paul, à la semaine prochaine.
Oui, merci Fabrice, merci à vous d'être là, et puis bonne continuation.
C'est le retour de la musique sur Nutri Radio. Vous restez avec nous, hein, car il y a encore plein de bonnes émissions, plein de bonnes choses tout au long de la journée.
Nutri Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.